Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette seconde partie d'Appel sur l'actualité, la libre antenne, car le vendredi, c'est vous qui intervenez sur le sujet de votre choix. Et ce matin, vous avez eu envie de parler politique, justice et football. On commence par ce mercredi très tendu en Guinée. Journée de manifestation à l'appel de l'opposition qui s'est terminée par la mort d'un jeune homme de 18 ans à Conakry. Un jeune homme tué par balle par des soldats, a raconté sa famille. Le leader de l'opposition, Seloud Alain Diallo, affirme avoir été lui-même victime d'une tentative d'assassinat par les forces de l'ordre. Celles-ci ont démenti. Alimou, bonjour.
Bonjour, Chantal.
Vous nous appelez donc de Conakry. Que vous inspire ces violences politiques, cette tension mercredi dans la capitale guinéenne?
Je pense que c'est des violences qui ne devraient pas se dérouler dans les conditions normales. L'opposition a le droit de manifester. Comme vous le savez, Chantal, la liberté de manifestation est un droit fondamental qui est garanti par les dispositions de l'article 10 de notre Constitution, qui dit que tous les citoyens ont le droit de manifester et de cortège. Donc c'est un droit naturel.
Et là, les autorités locales avaient interdit la manifestation de l'opposition.
Ils n'ont pas ce droit. Ils n'ont pas ce droit. Leur devoir, c'est d'encadrer les manifestations pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Et on constate que ces derniers temps, qu'il y a une volonté manifeste des autorités de suspendre toutes les libertés publiques. Je vous rappelle qu'il y a 2 mois, le ministère de l'Intérieur a pris un communiqué qui dit d'interdire toute manifestation dans tout le territoire guinéen. C'est inadmissible. Les libertés démocratiques, les libertés publiques ont été acquises en Guinée à la suite de nombreux combats qui se sont déroulés. Depuis 2005, 2006, même 2009, des Guinéens sont morts pour qu'il y ait la liberté, pour qu'il y ait la démocratie. Mais malheureusement, on constate qu'aujourd'hui, qu'il y a une régression totale.
Merci, Alimou. Fodé, vous êtes également en ligne de Conakry. Bonjour.
Oui.
Fodé, vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien.
Et Fodé, vous n'êtes pas du tout d'accord avec le point de vue exprimé à l'instant par Alimou?
Je ne suis pas d'accord. On le dit souvent à situation exceptionnelle, à mesure exceptionnelle. L'interdiction de cette marche était motivée par le fait qu'en amont, il y avait eu des violences à l'intérieur du pays, notamment à Tunisia.
Faudé, je suis désolée, on vous entend très très mal. On va peut-être essayer de revenir vers vous tout à l'heure. On va prendre maintenant la direction de Bangui. Mireille, bonjour.
Bonjour Chantal.
Alors Mireille, vous vouliez réagir à la mise en place lundi de la CPS, la Cour pénale spéciale, qui va juger les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Centrafrique depuis 2003. Est-ce que vous êtes satisfaite de voir cette Cour créée en 2015, enfin opérationnelle?
Oui, je suis totalement satisfaite de voir la mise en place de cette illustre institution parce que après les différentes crises qui sont survenues jusqu'à maintenant en République centrafricaine, je me suis rendu compte que les victimes ont été mises au banc de la société, ils n'ont pas été reconnus et je suis vraiment parfaitement satisfaite parce que là, on leur donne l'occasion de faire leur deuil, de reconnaître qu'ils ont été lésés, qu'ils ont eu des exactions à leur encontre.
Est-ce que vous avez été vous-même témoin ou victime de ces violences épouvantables qui sont commises dans un climat d'impunité jusqu'à présent?
Parfaitement. Oui, le dernier qui s'était déroulé le 1er mai, j'ai été touchée personnellement au sein de ma famille. Et jusqu'à là, j'ai ma cadette qui a une balle dans le bas-ventre et qui doit être évacuée pour qu'on puisse enlever.
Et c'est quelque chose que vous constatez quand vous discutez avec votre famille, vos amis, vos collègues. Il y a vraiment une soif de justice en Centrafrique?
Il y a une soif de justice en Centrafrique, quel que soit l'endroit, quelle que soit la personne, c'est unanime. tout le monde que cette justice-là, et surtout les pauvres qui n'ont pas des moyens. Heureusement que j'ai eu dire que le procureur de la Cour pénale spéciale a lancé un appel pour qu'ils puissent avoir des avocats commis d'office pour aider les gens qui n'ont pas les moyens pour se défendre.
Voilà, et puis il y a aussi des ONG hein, comme la FIDH qui peuvent aussi aider, mettre des avocats à la disposition des victimes. Merci beaucoup Mireille pour votre témoignage. Bonne journée à Bangui. On va rester en Centrafrique avec un tout autre sujet. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni mardi pour faire le point sur la situation et aussi parler d'un sujet qui fâche la France, le poids croissant de la Russie en Centrafrique. Il y a d'abord l'assistance technico-militaire apportée par Moscou au gouvernement de Bangui, et puis la volonté du Kremlin de convaincre les groupes armés de signer un accord de paix. L'ambassadeur français à l'ONU a déploré ce qu'il a appelé des initiatives parallèles. Jalousie, a rétorqué son homologue russe. Jean-Benjamin, bonjour.
Bonjour, Chantal.
Alors, que pensez-vous de cette présence russe et des armes que Moscou livre à votre pays depuis décembre 2017 suite au feu vert de l'ONU?
Pour ma part, vous êtes censé savoir aussi qu'il ne peut pas avoir un État sans une armée constituée. Et ce qui fait la force d'une armée est d'abord la formation des militaires et également la mise à disposition de cette armée d'arsenal militaire conséquent permettant de protéger le territoire et les populations résidant dans ce territoire. Je pense pour ma part, l'action qui est en train de mener la Russie envers la Centrafrique, elle est salvatrice. Que la Centrafrique, à l'heure actuelle, ne disposait pas d'une armée constituée, dotée des moyens. Et la Russie a obtenu l'autorisation auprès du Conseil de sécurité pour renforcer la capacité, tant intellectuelle des forces de l'ordre, mais également en termes d'arsenal militaire. Je ne comprends pas pourquoi ça pose problème aujourd'hui.
Mais est-ce que vous ne craignez pas que les Russes aient des arrière-pensées, qu'ils convoitent par exemple les mines de diamants, les richesses du sous-sol africain? Ils ont ouvert deux bases dans le nord-est du pays, dans la zone diamantaire. Ça ne vous inquiète pas, Jean-Benjamin?
Pour moi, il n'y a aucune inquiétude, dans la mesure où le sous-sol africain est riche et qu'un pays a le droit de diversifier ses sources de pays. La richesse centrafricaine dont on parle tant ne profite pas aux centrafricains. Elle est là. Mais s'il y a un État ou s'il y a des opérateurs économiques qui souhaiteraient venir mettre en valeur cette richesse pour profiter à la Centrafrique, c'est une bonne chose. Je ne vois pas d'inquiétude parce que les richesses seront exploitées ici. C'est les centrafricains qui travailleront, ça va créer de l'emploi, ça permet vraiment, si possible, de créer des routes. Parce que la Centrafrique est un pays aujourd'hui qui est à terre et on doit procéder à son relèvement économique en faisant venir tous les partenaires ici qui souhaiteraient appuyer ce pays.
Merci beaucoup Jean-Benjamin pour votre appel. Bonne journée à Bangui. On part pour Ouagadougou, retrouver Jaco, bonjour.
Bonjour.
Alors mercredi, le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore a appelé le Canada à renforcer sa coopération avec son pays en matière de lutte contre le terrorisme. Un appel lancé lors de la visite de la gouverneure générale du Canada, Julie Payette. Jaco, est-ce que vous êtes inquiet de l'aggravation de la situation sécuritaire dans votre pays avec ce nouveau front à l'est qui s'est ajouté au front du nord du Burkina?
Oui, il faut dire, Chantal, que le terrorisme au Burkina Faso aujourd'hui commence à être un peu inquiétant pour nous. Nous sommes attaqués, on nous assaillit de partout avec une guerre asymétrique dont nous n'avons pas les causes. Mais bon, c'est tout à fait normal que le président du Faso, en personne, sollicite de l'aide auprès de la gouverneure générale du Canada pour accompagner déjà les efforts déjà concentrés sur le terrain par le G5 Sahel et la France avec d'autres partenaires.
Mais justement, l'aide du G5 Sahel ne suffit pas.
Bon, à mon avis, trop de gens ne gâtent pas la sauce. L'aide du G5 est bien, mais c'est comme on aime dire, c'est bon, mais c'est pas arrivé. Si le Canada peut nous accompagner encore plus fortement, je pense que ça sera salutaire pour l'entièreté du peuple burkinabé. Et en plus de cela, il faut reconnaître que le système le mode d'opération est actuellement déployé sur le terrain par les terroristes du Burkina Faso et nous laissent croire que c'est une volonté affichée de déstabiliser le régime du président Compaoré qui est déterminé.
On n'est plus sous le régime du président Compaoré, là, on est passé à Kaboré.
Non, je vais dire le régime du président Kaboré parce que vous voyez, l'ancien régime du président Compaoré, en tant que la manière dont ils ont quitté le pouvoir, moi je pense bien qu'il y a des gens qui n'ont pas digéré. Donc il est nécessaire que le président Kaboré Rock puisse toutes les relations possibles à travers l'international pour pouvoir sécuriser son pays. Parce qu'on voit ailleurs que les attaques des terroristes sont revendiquées. Et ces attaques des terroristes également répondent à une certaine norme d'indépendantisme, ainsi de suite. Mais au Burkina Faso, ces attaques ne sont pas revendiquées et ces attaques sont ciblées. Et nous voyons réellement que le gouvernement a une volonté affichée, accrue, pour travailler, pour développer le Burkina Faso. Et toutes ces attaques-là nous agenouillent. Les attaques empêchent les partenaires de venir. Les attaques empêchent la population elle, de travailler sereinement, librement, pour accroître l'économie du pays. Donc nous sommes vraiment outrés de cette attaque, parce que le gouvernement ne connaissait pas ces attaques.
C'est à partir Merci.
De 2014 et à partir de la chute du président Compaoré que ces attaques-là ont commencé à nous... Ces terroristes ont commencé à nous déranger et à nous vraiment troubler le sommeil. Vraiment, nous souhaitons tous ceux qui peuvent nous accompagner, qui peuvent accompagner le président Kaboré, qui peuvent accompagner le gouvernement du Burkina Faso pour mettre hors d'état de nuit ces bandits armés.
Le président, donc, Roch Marc-Christian Kaboré. Merci beaucoup, Jaco. Bon week-end à Ouagadougou. On va terminer par du football avec, en Ligue des Champions, le match nul pas très rassurant du PSG, mercredi soir, face à Naples, 2-2 au Parc des Princes. Et c'est dans le temps additionnel qu'Angel Di Maria a arraché l'égalisation. Conséquence de ce match nul, le PSG est désormais troisième du groupe C avec 4 points. Derrière Liverpool, 6 points et Naples, justement, 5 points. Naples que Kylian Mbappé et ses camarades doivent impérativement aller battre le 6 novembre s'ils veulent se qualifier pour les huitièmes de finale sans être dépendant du score des autres équipes. Marcel, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Paris. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste sur les chances de qualification du PSG ?
Je veux rester optimiste parce que le PSG, ça fait de grandes individualités. Le drame, c'est qu'il n'y a pas une équipe. Et puis, ce sont des footballeurs qui sont gâtés. C'est les enfants gâtés du football français. Ils ont des salaires que les autres n'ont pas. Malheureusement, une fois sur le terrain, dans les grands matchs, quand sur le plan national, vous mettez 5-0, pratiquement à tout le monde, et que sur le plan national, vous rencontrez une équipe comme Barça ou le Real, et cette fois-ci, ce n'est ni le Barça ni le Real, c'est une équipe moyennement grande.
Mais alors, comment vous expliquez-vous qu'en Ligue 1, donc, les Parisiens étrillent leurs adversaires et qu'en Ligue des Champions, bien la magie ne fonctionne plus ?
On peut dire aussi que le football français est d'un niveau moindre. Enfin, ça ne justifie pas tout. Moi, je dis, c'est vrai que le football, il n'y a pas l'engagement qu'on doit avoir en Coupe d'Europe, que vous allez en Espagne, vous allez en Angleterre, c'est tous les week-ends qu'il y a un engagement. En France, les gens jouent à leur rythme et gagnent, comme Paris Saint-Germain, mais malheureusement, cet engagement, on a besoin en Coupe d'Europe où les joueurs doivent être au taquet et être à 100% et puis se donner à fond et jouer en collectif.
Donc c'est... Oui. Donc Marcel, si je vous comprends bien, le championnat français est si faible que du coup, on a tendance à surestimer la valeur du PSG.
Ah oui, non, ça, je suis convaincu qu'on surestime la valeur du PSG. Parce que ça fait depuis quelques années que le PSG ne passe pas les quarts, n'arrive plus au quart de finale et ne passe pas les grandes équipes. Et cette fois-ci, comme je viens de le dire, ce n'était pas une grande équipe, c'est une équipe moyenne-grande, si on veut dire. Et il n'est pas normal que sur son terrain, le PSG fasse match nul. Match nul miraculeusement.
Alors, est-ce que vous avez un pronostic pour le match retour Naples-PSG ?
Je pense que pour le match retour, pour ces joueurs-là qui ont besoin aussi de montrer ce qu'ils ont et de montrer qu'ils sont une équipe, Neymar est le troisième meilleur joueur du monde, je pense qu'ils ont intérêt à faire la décision là-bas et que le PSG soit qualifié en huitième.
Merci beaucoup, Marcel, pour votre appel. Toussaint est en ligne de Libreville. Bonjour.
Bonjour.
Alors, même question, est-ce que vous croyez encore aux chances de qualification du PSG pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ?
Absolument, absolument. Cette équipe compte les 5-10 meilleurs joueurs au monde en ce moment en son sein, donc je ne vois pas pourquoi elle serait... elle aurait moins de chances que d'autres de sa poule. Simplement que le PSG, montre un complexe de supériorité.
Voilà, là, je crois que tout ça, la ligne se détériore. On va peut-être essayer de vous rappeler. Je demande en régie. On a gardé, on a retrouvé Faudet qui tout à l'heure nous avait appelé au sujet de la Guinée-Conakry et des manifestations de mercredi qui s'était soldée par la mort d'un jeune homme de 18 ans. Faudet, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue donc sur ces violences politiques qui ont émaillé la journée de mercredi en Guinée, à Conakry?
Oui. Cette violence était prévisible parce que quelques jours auparavant, il y avait eu des violences à Kindia, des violences inouïes à Kindia. Donc au regard de cela, le gouverneur de Conakry avait estimé que l'opposition devait sursoir à cette manifestation parce qu'elle estimait que la paix sociale était menacée, ce qui est une autre disposition de la Constitution, ce que je vais rappeler à Alimou tout à l'heure, qui disait tout à l'heure que l'article 10 de notre Constitution consacre le droit de manifestation, mais il y a d'autres dispositions aussi qui disent que si la paix sociale est menacée, hein, les autorités ont le droit d'interdire de manifestation, fût-elle pacifique.
Merci. Merci beaucoup, Faudet, de nous avoir, d'avoir patienté, hein, pour qu'on puisse, entendre votre point de vue. On revient au football avec Toussaint, qu'on a récupéré en ligne de Libreville. Vous êtes là, Toussaint?
Je suis là.
Alors, qu'est-ce qui a pêché mercredi, selon vous, pour le PSG, donc, qui n'a réussi qu'un laborieux match nul, face à Naples au Parc des Princes? Qu'est-ce que l'entraîneur Thomas Tuchel doit changer? La tactique ou le mental des joueurs?
Ben, on a déjà vu que sur les demi-temps, l'entraîneur a changé de tactique. Ça veut dire qu'il sait réagir. C'est un entraîneur du niveau Champions League. Moi, ce que je vois, c'est que le PSG souffre d'un complexe de supériorité. Si vous regardez le match, le PSG a commencé tambour battant, c'est-à-dire qu'ils avaient une légère ascendance sur l'adversaire, une petite domination, et hop, on s'est endormi. Ensuite, il a fallu que l'adversaire marque un but pour qu'on se réveille. Donc, j'ai l'impression que le PSG souffre d'un complexe de supériorité. Il pense gagner les matchs d'avance, il pense que ce sera facile, alors que lorsqu'on pratique du football depuis le jeune âge, on sait bien que tout se gagne à l'effort, rien n'arrive avant l'effort et rien ne se gagne d'avance. Donc, je pense qu'il y a un petit travail mental ou psychologique à faire avec des joueurs qui se voient peut-être un peu beaux à cause des scores ronflants qu'ils font en Ligue 1. Ils pensent que tout le monde va passer à la casserole, mais dans le football, il faut bien comprendre que les matchs se gagnent en jouant sur le terrain.
Merci beaucoup.
C'est peut-être ce petit déclic psychologique qui manque au PSG.
Merci beaucoup, Toussaint. Bonne journée à Libreville. C'est la fin de cette émission. Merci à tous d'y avoir participé. Une émission préparée par Jessica Taïeb, Rebecca Birna, Yaël Co, Tanguy Lafontaine et Baptiste Madinier. Réalisée par Alexis Levavasseur avec, pour les appels, Michael Verne. Lundi, vous retrouverez Juan Gomez à ce micro. À 2 mois de la présidentielle en RDC, pouvoir et opposition vont tester ce week-end leur capacité de mobilisation. L'opposition qui a décidé finalement de ne pas boycotter le scrutin. On attend vos réactions au 33 9 693 693 70. Diarra Ndiaye, bonjour.